Bonjour et bienvenue dans l'émission des éclats de lyre. Invité aux éclats de lyre 2026, Samuel Ribeyron est auteur et illustrateur jeunesse. Il conçoit également des films d'animation. C'est par exemple lui qui a conçu tous les décors du film sorti récemment, Le secret des mésanges. Pour en savoir un peu plus sur son travail, écoutez donc cette interview. Bonjour Samuel Ribeyron.
Oui, bonjour Julie.
Vous allez bien ?
Eh ben ça va pas mal, et vous ?
Très bien, merci beaucoup. Donc vous êtes auteur-illustrateur jeunesse. Vous travaillez également dans le merveilleux et vaste domaine du film d'animation.
C'est ça.
À chaque album, vous adoptez, il me semble, un style assez différent, une ambiance un peu différente. Comment est-ce que pour chaque projet, cet univers prend forme ?
Alors c'est vrai que chaque album, moi je le travaille un petit peu d'une manière très spéciale, mais j'en fais pas beaucoup, c'est vu que c'est pas mon activité principale, je fais moins d'un album par an, donc chaque fois que je me retrouve face au défi de faire un livre, j'essaye de me mettre un peu dans la contrainte de faire quelque chose de nouveau, à la fois pour me surprendre moi-même dans mon travail. Et puis ça me donne aussi l'impulsion de faire quelque chose qui me plaît et dans lequel j'ai un peu l'impression de prendre un risque. C'est ça qui va me donner vraiment l'impulsion du travail, l'impulsion du dessin, l'impulsion de l'écriture aussi. C'est vrai que j'aime pas trop refaire deux fois la même chose. Je me lasse assez vite de mon propre dessin, donc c'est pour ça que je me dis, si je me surprends moi-même, je pense que ce sera peut-être une manière de surprendre aussi les lecteurs. Et puis c'est aussi une manière de peut-être d'appréhender l'image qui peut-être colle au plus proche d'un texte. Et c'est vrai que parfois, des histoires se prêtent plus à du papier découpé, de dessins peut-être plus numériques, ou même des fois, moi j'ai fait des albums avec des marionnettes prises en photo. Ça servait aussi, la technique servait aussi l'histoire, servait aussi une narration, donc ça permettait de gérer à la fois le texte et l'image dans un même tout.
Pourtant, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez inventé des personnages à la tête carrée, c'est assez rare dans le monde de l'édition jeunesse, dans Pipo Pierrot, c'est un album qui n'a pas été écrit par vous, mais par Chun Liang Ye, aux éditions Hangfei. Et j'ai vu des personnages un peu similaires revenir dans un autre de vos albums aux mêmes éditions.
Alors c'est vrai, c'est vrai, ces petits personnages de tête carrée, ils m'ont suivi quand même pendant quelques années. Cette histoire, ce design de personnage est vraiment né de l'histoire de Chun, qui a écrit un conte chinois avec toute la portée et la philosophie que les contes chinois peuvent avoir, et où il racontait l'histoire d'un peuple qui portait sur son dos des pierres et qui portait ça de manière plutôt naturelle, hein, des pierres comme les enfants peuvent porter un cartable, et certains la décoraient, il y en avait qui portaient des petites pierres, d'autres des grandes. Et toute l'histoire était sur le fait de comment appréhender cette pierre et comment la porter du mieux possible. Et c'est vrai qu'en lisant cette histoire, il m'est venu une sensation très très lourde. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, ils portent cette pierre sur le dos, ils sont fatigués, ils sont tous courbés. Et il y avait une histoire aussi très lourde de sens, qui avait une portée très... pour moi c'était presque métaphysique, et je me suis dit, il faut pas que j'arrive que dans mes images je sois trop lourd dans mes images, mais il fallait quand même traduire ce poids. Et en fait c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Alors c'est des concepts qui sont un petit peu qui arrivent en amont de la réédition d'un livre, hein, mais moi qui me porte dans toute la fabrication. Et j'ai eu l'idée de traiter des images à l'aquarelle, donc plutôt très légères, avec beaucoup de jus et de taches d'aquarelle. Et j'ai eu l'idée de mettre ce côté lourd dans la tête des personnages, comme un peu une tête d'enclume, quoi, ou un gros carton dans lequel on pourrait mettre des choses. Et c'est vrai que ces petits designs de personnages m'ont suivi dans un autre album qui s'appelle Beau Voyage. Ils m'ont même suivi dans un court-métrage du même nom, où j'ai fabriqué ce petit personnage en volume et que j'ai animé image par image.
Et c'est fou, merci de nous avoir dit tout ça, c'est fou le nombre de questions que peut se poser un illustrateur avant d'illustrer un projet. Nous, on ne se rend pas compte, quand on est néophyte du dessin d'illustration, tout ce que vous pouvez réfléchir en fait. J'imagine qu'au niveau des couleurs aussi, il y a pas mal de questions qui se posent. Ou sur les outils que vous allez utiliser aussi à chaque fois.
Oui, bah effectivement, il y a très peu de choses laissées au hasard, vraiment, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Je pense qu'on fait tous un métier, vous avez dû avoir d'autres auteurs, illustrateurs en interview, on fait un métier quand même très solitaire, dans lequel on cherche aussi, il y a beaucoup d'introspection, mais on essaye d'être le plus cohérent possible, et on a, en tout cas moi, dans cette part de mon activité professionnelle de faire des livres, j'estime avoir une vraie responsabilité dans ce que je vais faire, donc... C'est quelque chose que je prends pas à la légère, en tout cas. Et donc, c'est vrai que j'essaye d'y apporter et le plus de sens possible et le plus de justesse. C'est pas toujours très évident. Alors, des fois, on se plante. Hein. Des fois, on prend des risques qui sont des risques qu'on mesurait pas, soit qui nous ont fait plaisir à un moment donné en faisant. Et puis, en fait, ils sont avérés être peut-être, je sais pas, soit trop risqués, soit trop loin d'un travail qu'on a envie d'être reconnaissable aussi pour un auteur-illustrateur. On a envie de le reconnaître dans son style, dans sa touche, dans sa patte. Et quand on s'éloigne un peu trop, quand on prend trop de chemin de traverse, on a peut-être tendance à un peu perdre tout le monde. Bon, voilà, moi, je ne suis pas... Ça m'importe peu. J'ai l'impression d'essayer de faire des choses, moi, qui m'amusent et qui me plaisent à l'instant T. Mais oui, on se pose beaucoup de questions, c'est vrai.
Vous avez mentionné plusieurs outils que vous utilisez, que vous pouvez employer dans vos dessins. Il y en a peut-être d'autres. C'est quoi vos outils préférés ?
Alors en ce moment, c'est beaucoup le ciseau.
Ouais.
Le ciseau, la colle et le papier. C'est vraiment là, je sors d'un gros projet, alors plutôt du côté animation. J'ai travaillé 4 ans là sur un long métrage d'animation qui s'appelle Le Secret des Mésanges, qui est en salle en ce moment. Et alors le papier découpé je me suis déjà confronté à cette technique dans un autre moyen métrage qui s'appelait Neige, et puis dans une BD qui s'appelle Puisette et Fragile.
Oui, voilà.
J'ai réalisé entièrement en papier découpé. Donc cette technique, elle est, j'ai l'impression que j'ai pas encore tout découvert et elle me suit encore assez fortement. C'est quelque chose dans lequel j'ai l'impression en ce moment de m'épanouir beaucoup et puis de trouver des choses qui me surprennent et qui dépassent un peu le dessin, le trait, le bien fait, la belle forme, le beau dessin bien joli. Le papier, il est plus, il a quelque chose, il y a une matière, quelque chose de plus sec, plus franc, plus fort. Et du coup, quand on découpe une forme en papier, c'est pas comme si on l'avait dessinée, cette forme. Il y a quelque chose de plus instinctif, qui me plaît beaucoup en ce moment.
Vous utilisez quel type de papier ?
Alors, en ce moment, essentiellement du Canson. Parce que avec les studios Folimage avec lesquels on a fait Le Secret des Mésanges, on a eu la chance de faire un gros partenariat avec l'usine Canson, qui est à Annonay.
D'accord.
Les studios Folimage sont à Valence. Donc du coup, ça faisait sens vraiment dans le travail local. Donc c'est vrai que je connais très très bien la palette de papier Canson que j'ai vraiment maniée et utilisée pendant 4 ans. Donc c'est vrai que c'est des couleurs qui me sont assez familières et assez proches.
Vous dites aussi que vous avez dit que vous avez travaillé avec le numérique. J'ai pas vérifié votre date de naissance en préparant cette interview, mais je pense que vous avez vu un peu l'arrivée du numérique dans votre travail. Est-ce que ça a pu modifier votre manière de travailler ?
Ah ouais, complètement.
Oui.
Ouais, complètement. Moi, c'est arrivé vraiment moi dans mes études d'art en fait, où j'avais des cours sur Photoshop, mais il n'y avait pas de tablette graphique, donc on avait des cours et on dessinait à la souris. Donc autant dire que c'était voilà. Bon, c'est un bon apprentissage quand même. Et c'est vrai que le numérique moi a bousculé vraiment ma manière de faire des images. C'est arrivé sur des albums, comme le grand papa et sa toute petite fille. Et puis après, plus récemment, La Bergère aux mains bleues. Enfin, moi, c'est vraiment un outil que j'utilise encore hyper régulièrement. Et c'est vrai que j'ai réussi, ça m'a apporté vraiment un champ des possibles qui s'est ouvert devant moi, notamment au niveau des ambiances et de la cohérence qu'on peut avoir dans des ambiances d'images, avec des concordances de couleurs qu'on n'aurait pas forcément fait à la peinture ou à l'aquarelle ou même en papier, parce qu'on peut aller vraiment très loin et chaque petite touche peut être changée. Donc c'est vrai que ça m'a amené à gérer ma palette, en tout cas ma palette de couleurs, de vraiment de manière très très précise. Et même dans un album qui s'appelle La Papote, chez Didier Jeunesse, où là c'est vraiment le code couleur qui m'a guidé, qui a été mon guide dans toute la fabrication du livre, qui est la couleur rouge, et qui est vraiment le fil rouge de mon travail d'illustrateur sur cet album. Et cette couleur est vraiment présente de partout dans tout l'album. Et c'est vrai qu'en numérique, ça permet d'être très cohérent en tout cas. Thank you.
êtes en train d'écouter l'émission des Éclats de Lire sur Radio Escapade et je demande à mon invité, Samuel Ribeyron, quelle est sa pratique du carnet ?
Alors, elle est assez variable. Il y a vraiment des grandes périodes où je dessine énormément dessus, où je note des idées. Généralement, il m'accompagne assez souvent, presque tout le temps. Après, j'ai des grandes périodes où je ne l'utilise mais pas du tout, mais vraiment parce que j'ai pas le temps. Parce que je travaille dans souvent ces mêmes grosses périodes d'animation où je suis occupé toute la semaine à travailler sur le film. Donc c'est vrai que le carnet, pour moi, il est plus utilisé quand je suis à la maison, ou en vacances, ou en voyage, ou en trajet. C'est vraiment lié au... C'est pas lié à mon travail d'animation, quoi.
Mais dans tous les cas, il y en a.
Dans tous les cas, il y en a, et c'est un support, moi, que j'utilise beaucoup en rencontre scolaire. J'aime bien montrer mon carnet, et j'aime bien montrer comment naissent les idées, c'est-à-dire d'où viennent les enfants. On peut nous poser la question d'où vient l'imagination, d'où vient notre imaginaire, d'où viennent les idées. C'est quelque chose qui est assez... on a toujours envie de savoir comment ça se passe. Et c'est vrai que le carnet peut répondre à ce genre de questions. Par exemple, un dessin que j'ai fait dans un carnet peut être fait un matin en me réveillant et en me souvenant d'un rêve, par exemple. Et un rêve peut être une idée. Ou j'ai un dessin dans mon carnet où c'est un bol de soupe et dont je raconte aux enfants qu'au restaurant, c'est la meilleure soupe que j'avais mangée de toute ma vie. Et pour m'en souvenir, je l'ai dessiné dans mon carnet secret. Dans mon carnet de croquis. Et du coup, tous ces dessins que je leur montre, c'est des moments, des manières de récolter un petit peu des souvenirs et de les garder avec soi. Et le carnet, pour moi, c'est vraiment ça. C'est surtout noter pour ne pas oublier. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas une mémoire très très forte. Donc, c'est vrai que j'y retourne régulièrement dans mes carnets, fouiller, regarder, trouver des bonnes, des mauvaises idées, des dessins réussis, des dessins ratés. Et des fois, ça peut donner des idées d'histoires, d'albums. Souvent, moi, mes histoires sont nées quand même sur des carnets. Hein.
Samuel Ribeyron, vous travaillez donc dans le monde du dessin animé. Il y a ce film, Le secret des mésanges, qui est sorti en octobre 2025, je crois, pour lequel vous êtes directeur artistique des décors. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît ?
Alors dans l'animation, tout est très sectorisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des métiers pour chaque poste de travail. Moi sur Le secret des mésanges, j'ai eu plusieurs casquettes. La plus importante, c'est celle de la direction artistique, c'est-à-dire que j'ai été garant du début jusqu'à la fin de la fabrication du film, de la graphique et visuelle de l'image. Donc, on a partagé la création graphique. Donc ça, c'est vraiment encore autre chose avec une amie qui s'appelle Sophie Rose, qui elle s'est chargée de faire le design des personnages, et moi je me suis chargé de faire le design des décors. Donc ça s'appelle auteur graphique. Et donc moi j'ai designé les décors du film. Ensuite, il y a toute une équipe qui est venue travailler avec moi pour fabriquer tous les décors. On a passé 9 mois à 10 personnes pour fabriquer les 826 décors du film.
826 décors, donc en papier Canson, c'est ça ?
Tout est en papier Canson. Voilà. Ouais, tout le film est en papier Canson. C'est une technique un peu particulière parce que c'est très artisanal. On utilise très peu d'ordinateurs. Il y en a quand même, parce que pour animer, on en a besoin, pour faire la post-production aussi. Mais le dur et la matière première de nos images est faite entièrement en papier. Et puis, je reviens sur la direction artistique qui est là vraiment, et plus une fois que c'est chapeauté en fait, dès qu'il y a des décisions graphiques, des décisions artistiques avec le réalisateur, de prendre les bons chemins, la bonne voie pour être le plus cohérent, qu'on n'ait pas d'écart.
Oui, parce que c'est pas vous qui faites tout le graphisme. Les personnages, vous l'avez dit, c'est quelqu'un d'autre, mais il faut qu'il y ait une cohérence graphique avec l'ensemble. Donc vous veillez à cela en plus de votre travail sur le décor. Donc
c'est ça. Moi j'ai donné le ton des décors, C'est-à-dire que j'ai fait les décors références du film, les décors principaux. Ça a donné le ton, les couleurs, les formes. Et ensuite, il y a toute une équipe qui est venue, que moi j'ai encadrée, et qui est venue décliner tous ces décors, fabriquer tout, parce qu'il y en avait trop, il y en avait beaucoup. Hein, donc c'est ça qui est assez chouette dans ce métier aussi, c'est qu'il y a tout un travail d'équipe, moi, que j'adore, que je n'ai pas du tout dans mon métier d'auteur-illustrateur, parce que c'est très solitaire. Et donc ces deux métiers sont hyper complémentaires, et c'est vrai que je m'avoue être très chanceux de pouvoir naviguer de l'un à l'autre comme ça, là, depuis pas mal d'années, en fait. Et c'est très chouette.
Est-ce qu'on vous donne des pistes ou des formes à respecter pour ce travail-là? Quel cadre on vous donne?
Alors en fait, la chance que j'ai, c'est que depuis presque 20 ans là, que je travaille dans l'animation, je travaille avec des copains, on a une petite équipe avec lesquelles on fait des films depuis 20 ans, et on s'entend vraiment très très bien. Et Antoine Lancio, j'ai déjà avec lui réalisé 4... j'ai travaillé sur 5 moyens-métrages, donc 5 26 minutes en tant qu'auteur graphique, et lui, il était réalisateur. Et donc, on se connaît vraiment très bien, on a vraiment une confiance assez mutuelle. Et Antoine, c'est quelqu'un qui vraiment délègue beaucoup avec une grande sagesse et une grande admiration du travail d'autrui. Et ça, c'est vraiment hyper plaisant de travailler dans ces conditions-là, parce qu'à la fois, il nous laisse carte blanche. Moi, il m'a laissé carte blanche, en tout cas, pour faire les décors du film. Sachant que lui, il dessinait quand même beaucoup, il a fait beaucoup de productions dessinées sur son histoire. Moi, je me suis emparé de ses dessins. Je me suis emparé aussi de toute une banque photographique qu'il avait fait. Et lui, il m'a demandé, en fait, de traduire ses dessins et les photos qu'il m'a données dans un style papier découpé, avec de trouver la gamme de couleurs, de trouver les formes, de trouver comment on allait représenter les arbres, les buissons, les bâtiments, de quelle couleur ils allaient être. Voilà. Donc tout ça, il fallait le décider. Donc ça a été un gros travail, mais encore une fois un travail d'équipe, hein, parce que il y a Sophie Rose qui était aussi là, qui faisait les personnages en même temps que les décors, parce qu'il faut les décors dans un film, c'est quand même c'est un peu le dans un film on suit les personnages, on suit la narration de personnes, et les décors sont vraiment là pour en demi-teinte, quoi. On est là pour faire l'emballage un peu du personnage. Mais donc il faut avoir des teintes qui soient pas trop fortes pour pas que le décor arrive en avant et que le personnage on ait l'impression qu'il soit plus derrière. Voilà, on est au service quand même de la narration, au service du personnage. Donc c'est quand même le héros, c'est le pantin, c'est le personnage de Sophie.
Alors justement, on a beaucoup parlé de l'aspect technique de ce film, mais pas du tout de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous la résumer un petit peu et puis nous dire ce qui vous a touché particulièrement dedans?
Oui, alors après, Antoine Lancio, il serait mieux placé que moi pour en parler, mais en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lucie, qui part en vacances rejoindre sa maman, qui est archéologue, et qui fait des fouilles archéologiques dans le village où elle a passé son enfance. Et donc, c'est une histoire qui se passe en deux temps, où il y a Lucie qui va rejoindre sa maman et qui va faire des fouilles un petit peu sur son histoire de famille, pendant que sa maman, elle, va faire des fouilles dans un vieux château qui est au sommet d'une colline. Et du coup, le fait d'être dans le village de sa maman, Lucie va essayer, va trouver des choses, va trouver des secrets. Elle va être guidée par deux petites mésanges qui, elles, on a l'impression qu'elles savent beaucoup de choses et qui vont guider Lucie tout au long de son histoire. Elle va avoir l'aide aussi de Yann, qui est un jeune ado qui va très souvent rejoindre ses grands-parents à la ferme. Et donc c'est une aventure un peu entre Club des Cinq et une aventure familiale. Alors c'est vraiment hyper... moi, cette histoire, elle me touche beaucoup parce qu'elle est très sensible à l'image un peu de son réalisateur, hein, d'Antoine, qui est comme ça, et puis qui livre... une histoire qui lui ressemble, hein, parce que ça aborde l'abandon, ça aborde l'histoire familiale, ça aborde les secrets de famille, des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire, qu'on découvre sur le tard. Donc c'est vrai que c'est des thèmes qu'on voit rarement quand même au cinéma. Il y a un thème aussi qui est très fort dans ce film, qui est la campagne, qui est vraiment le personnage principal de ce récit. On est vraiment au cœur de la campagne française. Les paysages sont très inspirés de par chez nous, hein, Drôme-Ardèche. Et Antoine avait à cœur, en tout cas, de mettre la campagne, les vaches, la ferme, au cœur de son histoire.
Eh bien, merci beaucoup, Samuel Ribeyran. C'est un film qu'on pourra voir au cinéma pendant les éclats de lyre.
C'est ça. Super. Merci à vous.
Merci, à très bientôt. Donc,
très bientôt.
Fin mai, au Vigan, pour les éclats de lyre.
Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.